Depuis le début, l'électrocardiogramme n'a pas bougé.
Dominique Vallière.
Ça devient pas mal une condition sine qua non.
S'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
Yasmine Abdel-Fadel.
Ça serait tellement catastrophique.
La rencontre.
S'il va, il va se faire soincer.
C'est difficile de se battre contre des chocs qui arrivent dans la boîte à mal.
Quand l'idéologie rencontre la réalité, c'est souvent la réalité qui gagne.
C'est pas comme ça qu'on tisse des liens avec les institutions.
Puis le temps file rapidement.
La rencontre Vallière-Abdel-Fadel.
Dominique, Yasmine, bonjour à vous deux.
Allô, bonjour. Allô.
Alors, commençons avec ces 32 ans de la tuerie de Polytechnique. 14 femmes qui sont mortes. Si on se plonge 32 ans plus tard, 18 féminicides cette année, énormément de violences par arme à feu, notamment à Montréal. On pourrait dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, Yasmine.
Il y a encore beaucoup d'apprentissage qu'il aurait fallu qu'on tire de la tragédie de Polytechnique. 14 femmes sont tombées sous les balles de Marc Lépine, qui a tué parce qu'elles étaient des femmes, puis considérer que des femmes qui apprennent du génie, ben c'est contre nature. Puis aujourd'hui, 2021, on a eu 18 féminicides, des armes, ça se promène à Montréal, des balles, ça se tire dessus à Montréal comme si de rien n'était. J'espère qu'on va prendre la journée d'aujourd'hui comme un rendez-vous là pour se dire non. On veut pas retomber là-dessus. Des féminicides, 18 féminicides cette année. On n'en veut pas un de plus, puis on n'en veut pas en 2022. Et que finalement, les armes à feu, la prolifération des armes à feu, ben c'est inacceptable. Puis au-delà des mots, des sommets, des rencontres, il va falloir avoir des actions concrètes. On voit déjà des arrestations se faire ici et là, des saisies d'armes qui se font, mais ça reste extrêmement timide par rapport à la gravité de la situation.
Dominique?
Moi, je veux saluer leur résilience, puis je pense qu'on le fait à chaque 6 décembre, mais après 32 ans, ils en ont entendu des discours vides, ils en ont entendu des promesses qui se sont pas réalisées. Pis ça doit être difficile de toujours retourner voir des nouveaux gouvernements à Québec, à Ottawa, puis dire « écoutez-nous, entendez-nous ». Partagez ce qu'on a vécu, puis s'il vous plaît, agissez, parce que force est d'admettre que les enjeux, tant sur dans un palier que dans l'autre, sont pas complètement réglés pour qu'on puisse voir ce qu'on voit, puisque Yasmine a décrit, donc tant dans les rues de Montréal que de la violence faite aux femmes en particulier. Alors, c'est surtout de ça dont je voulais parler ce matin, parce que il faut garder la flamme allumée, puis il faut qu'on puisse parler encore une fois de la vie trop courte de ces jeunes femmes-là. Chaque cérémonie du 6 décembre avec les lumières, je dois dire, moi, c'est une cérémonie qui me touche particulièrement. J'ai été étudiant à l'Université de Montréal, c'est mon alma mater, puis il y a toujours un drôle de sentiment le 6 décembre quand on se présente en classe. Alors, c'est ça. Je veux surtout parler de celles qui restent, puis de tout le travail qu'elles ont fait.
Qu'elle continue de faire, là, je veux dire.
Ben oui,
le travail de Nathalie Provost, par exemple, des Rajden, de Police se souvient, pour le contrôle des armes à feu, les critiques de Justin Trudeau et de ses programmes un peu mous pour interdire les armes de poing, notamment le fait de rappeler à l'ordre le gouvernement du Québec pour dire ça en prend plus pour contrer la violence par armes à feu aussi, mais sont très, très critiques d'Ottawa, Yasmine, et ça, on les entend, on continue de les entendre, et visiblement, ça n'arrêtera pas parce que le gouvernement Trudeau ne fait pas grand-chose là-dedans, là.
Ben, c'est sûr que c'est très timide, les actions du gouvernement Trudeau, notamment pour le contrôle des armes de poing, qu'ils veulent un petit peu déléguer puis s'en débarrasser pour le donner aux municipalités, gérer ça, cette patate chaude-là. Parce que nous, on veut pas potentiellement perdre des votes dans l'Ouest canadien qui sont un peu, qui ont une culture d'armes, disons, de port d'armes personnelles beaucoup plus importante que dans l'Est du pays, ici au Québec. C'est pas quelque chose que l'on accepte, quoi qu'aujourd'hui, il y a une sous-culture des armes à feu qui prend de l'importance à Montréal. Ceci étant dit, Poly se souvient, Nathalie Provost en a parlé, ont été aussi particulièrement actives dans tout le débat pour le registre des armes à feu qui a été aboli par le gouvernement un peu, que le Québec a essayé de mener une bataille pour pouvoir avoir son propre registre des armes à feu. Et c'est drôle que des victimes survivantes d'un acte aussi affreux que celui de Polytechnique deviennent un groupe d'intérêt pour la défense finalement de la vie, puis de lutter contre la prolifération des armes à feu. Ce n'est pas un groupe d'intérêt, il faut pas les voir comme un lobby contre les armes à feu, mais plutôt les témoins d'un moment de notre histoire qui est majeur, important et auquel on devrait tous souscrire, on devrait tous être des lobbyistes actifs contre la prolifération des armes à feu, pas uniquement les victimes de Polytechnique.
Dominique, tu voulais parler aussi des professeurs de français dans le Québec Inc. qui doivent être occupés ces temps-ci avec l'affaire Michael Rousseau, là, le PDG d'Air Canada, son discours unilingue anglais, le fait qu'il a été complètement manqué de sensibilité envers les francophones de Montréal et du Québec, et là, qui a dit « bon, mais finalement, je vais apprendre le français ». Il y a d'autres PDG qui lui ont emboîté le pas. Là. Donc, alors, les professeurs de français de PDG doivent être occupés, là.
Ben, je ne sais pas s'il y a pénurie dans ce secteur-là, mais effectivement...
Ça doit être payant, les profs de PDG.
Je ne sais pas si les tarifs sont différenciés. C'est une bonne question. Faudrait s'informer parce que, en tout cas, ils sont courus. C'est ce qu'on apprend ce matin dans le journal. C'est la chose à faire. Première chose à dire, c'est la chose à faire. Je pense que tout anglophone qui vient exercer un poste de direction au Québec est maintenant au courant. Merci à Monsieur Rousseau que c'est un passage obligé. Je ne sais pas si vous avez remarqué la semaine dernière quand le nouveau VP hockey du Canadien de Montréal est arrivé, Monsieur Gorton, la toute première déclaration qu'il a faite, il l'a faite en français. Après ça, il a dit je prends des cours,
j'essaie
d'être bon. Ben, il dit, ça fait 32 ans que j'essaie d'être bon au golf puis ça marche pas. Fait qu'on va espérer que ça va mieux aller avec le français. J'ai trouvé que c'était une belle façon aussi de parler de ça. Mais donc, oui, les PDG du Québec Inc., les PDG anglophones, parce que c'est un corollaire du succès d'entreprises du Québec Inc. qui sont devenues des multinationales puis qui ensuite doivent aller chercher des PDG un peu partout dans le monde parce qu'ils recrutent parmi les meilleurs. Mais il faut pas oublier d'où ces entreprises-là viennent, ce que peut-être fait Monsieur Rousseau et d'autres. Alors moi, je me réjouis de savoir qu'il y a eu une ruée vers le français auprès des PDG anglophones.
Yasmine.
C'est un réveil brutal que les PDG ont connu avec Michael Rousseau, que tu sais, ça venait de temps en temps des PDG qui parlent pas français, qui s'expriment mal en français, mais là ça a duré. Le cycle de nouvelles a été occupé pendant pas loin de 10 jours sur Michael Rousseau, et ils doivent pas vouloir que leurs actionnaires leur parlent de la même manière que les actionnaires d'Air Canada ont dû parler à Monsieur Rousseau. Tu sais, ils ont peur pour eux-mêmes également. Ils veulent pas constituer un obstacle, un risque et finalement être un élément contre-productif de la prospérité et la rentabilité de leur entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend le bottin téléphonique, on trouve les écoles de français et on commence à étudier le français comme il n'y a pas de lendemain. Moi, je pense que d'ici les prochaines semaines, ils vont se faire très discrets, même les prochains mois, ils vont se faire très discrets le temps d'apprendre la langue de Molière, de la maîtriser correctement pour pouvoir faire un retour dans la vie publique et nous livrer un beau discours en franglais.
Peut-être que tout ça, c'est une campagne qui a été orchestrée par une association de profs de français. C'est eux qui ont soumis la question pour qu'elle soit posée dans le scrum de Monsieur Rousseau. Puis après ça, ils se disent, ouvrez les portes et laissez-les venir.
sont tannés de négocier avec le gouvernement. Il est mieux avoir de plus hauts salaires au privé. Je voulais qu'on revienne aussi sur le congrès du PQ, là, durant la fin de semaine. Paul Saint-Pierre Plamondon qui rencontrait enfin ses militants pour la première fois. Il leur a servi pas mal ce qu'ils voulaient entendre. On a beaucoup parlé de souveraineté, d'armée québécoise, d'hymne national, d'équipe sportive nationale. C'était comme un parti de souverainisme.
Toutes des affaires qui sont très importantes pour les Québécois aujourd'hui, là, savoir quelle armée, est-ce que c'est celle du Danemark ou celle d'un autre pays que le Québec va avoir une fois qu'il est souverain. Les Québécois se réveillent le matin avec ça puis ils se couchent en pensant à ça. Honnêtement, ça démontrait à quel point encore le PQ est complètement déconnecté de la réalité. Et ce qui était encore particulier et qui m'a fait vraiment sourire, c'est malgré le fait qu'ils rentrent tous dans une vanne, malgré le fait que les sondages sont au plus bas, ils ont quand même trouvé le moyen de chicaner dans leur congrès entre leur commission jeunesse puis le chef sur la gratuité scolaire. On l'offre-tu, on l'offre-tu pas? C'est-tu graduel, c'est-tu pas graduel? Honnêtement, là, vous aviez le temps de ficeler tout ça. C'est gênant. Puis là, dévoilement d'un nouveau logo. Puis je vais laisser Dominique nous en parler parce que ça, là, c'est comme la cerise sur le gâteau. Quel congrès poche pour le PQ, honnêtement.
Dominique, Yasmine est un peu dure quand même ce matin.
6h15, Yasmine est en forme.
mais les militants étaient contents là, d'entendre parler d'armée. Là. À un moment donné, le PQ a tout essayé. Le PQ a tout essayé. Il a essayé de pas être souverainiste, d'être souverainiste dans deux mandats, d'être souverainiste dans un mandat. Un moment donné, Paul Saint-Pierre Plamondon dit, ben regardez, il n'y a rien qui marche. Il faut aussi bien avoir du fun.
Ben écoute, moi, c'est si j'avais eu ma carte...
Que moi.
Mais avec si le j'avais sourire. Eu ma carte à bingo, là, parce que j'en ai vu des instances du PQ, là, mais on aurait eu un bingo assez rapidement, parce qu'effectivement, les discussions qui ont lieu dans d'autres instances précédemment ont eu lieu en fin de semaine. Puis je le sais d'expérience, quand t'es rendu à détailler le prix d'un F-18, puis si d'ailleurs ça va être un F-18 ou ça va être autre chose dans ton instance, tu t'as perdu, là. Parce que, à un moment donné, ce ne sont pas les militants du Parti québécois aujourd'hui. Donc, ça va se prendre si jamais, lorsque le Québec sera souverain, ça va se prendre tout le monde ensemble. Mais c'est pas 125 personnes dans la salle d'un Delta à Trois-Rivières qui vont décider aujourd'hui la couleur des clôtures, puis l'uniforme des gens, de quoi ça va avoir l'air. Mais bon, écoute, c'est un congrès du PQ, puis un congrès du PQ n'est pas un congrès du PQ s'il n'y a pas quelqu'un qui ça va péter une coche au micro à un moment donné. Ça aussi, c'est un passage obligé. C'est dans la feuille de bingo.
Mais c'est quoi cette histoire-là du logo retiens, là, dont Yasmine parlait?
C'est ça. C'est là où j'arrivais. Ce que j'en retiens, c'est le logo. Donc, je vais essayer de le décrire peut-être pour des gens qui ne l'auraient pas vu. Mais il y a toujours le même Q stylisé que dans les anciens logos. Mais ça, la pointe du Q serait donc une fleur de lys. Problème, c'est que c'est aussi le logo d'une entreprise kazakh. Donc, les gens ont pas pris beaucoup de temps à trouver ça sur Internet. Tu fais une recherche inversée avec...
Les couleurs sont différentes, là. Mais
les couleurs sont différentes. Il y a une petite indentation différente aussi. Mais sinon, à 95%, c'est le même logo. Fait que j'ai hâte de voir la discussion que l'exécutif national du Parti québécois va avoir avec son graphiste, parce que j'ai aucune idée comment on en est arrivé à ça. C'est juste qu'aujourd'hui, à peu près même 5 heures après le dévoilement du nouveau logo, tout le monde se disait « Attendez un peu, là, qu'est-ce qui se passe? » Fait que c'est ça qu'on retient, plutôt que l'explication derrière le nouveau logo. Puis tout ce que ça devait vouloir dire.
Yasmine, les langues sales pourraient dire, si on regarde juste ce qui se fait au Québec, des fois on peut copier ce qui est déjà fait ailleurs comme il faut.
Hey, mais c'est rendu qu'on s'inspire du Kazakhstan puis des compagnies gazières du Kazakhstan pour
je pense
un parti
pas, mais...
qui se dit... Honnêtement, c'est un peu gênant, mais blague à part, tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon, il vivait, lui, un premier gros congrès, un peu comme à la Dominique Anglade qui vivait ça également il y a quelques semaines. Sauf que lui, il a dû rentrer en confrontation avec la présidente du comité jeunesse du PQ sur la question de la gratuité scolaire. Il doit expliquer pourquoi le logo ressemble à une autre compagnie. Je sais pas s'il sort plus renforcé après ce congrès-là ou pas. On n'a pas beaucoup vu dans les médias, par contre, Pierre Nantel, qui est leur nouvelle recrue pour le comté de Marie-Victorin, que je pense qu'ils sont en train de baisser les attentes s'ils vont le garder ou pas, ce comté-là. Chose certaine, ça va être à surveiller au cours des prochaines semaines.
Puis le logo, ce qui est bien, c'est qu'il part, puis il finit comme si c'était une flèche qui revenait sur elle-même. Hein? Certains pourraient dire on tourne en rond. Bonne journée. À demain.
Salut.